Bonjour. Merci Raphaël, bonjour, il est 8h10 à Port-au-Prince. Un projet de nouvelle constitution présenté hier en Haïti en pleine querelle sur la date de départ du président Moïse. Franz Duval nous attend à Port-au-Prince. La vaccination contre le Covid a grande allure, elle a démarré hier au Chili. Et notre dossier du jour, la difficile coopération entre les États-Unis et le Mexique contre le trafic de drogue. Bienvenue à tous. On en parle depuis le début de la semaine. Le président Jovenel Moïse quittera-t-il son siège dimanche comme le prévoit la Constitution ou bien l'an prochain comme il le conçoit, en tout cas comme si de rien n'était. Les autorités haïtiennes hier ont rendu public un projet de nouvelle Constitution avec un référendum d'approbation prévu le 25 avril. On en parle avec vous, Franz Duval, rédacteur en chef du Nouvelliste. Bonjour.
Bonjour Michael.
Ce projet de Constitution, Franz, provoque-t-il le débat en Haïti ?
Ah non, l'avant-projet de nouvelle constitution qui a été présentée ne fait pas encore débat dans la société haïtienne. Il faut dire que la fabrication du projet non plus n'avait pas fait débat, car c'est le président Jovenel Moïse unilatéralement qui avait fait le choix de changer la constitution, qui a choisi seul une petite commission qui n'a pas rencontré grand monde depuis sa création. Et cette commission a présenté le texte, qui est un texte sur mesure pour les projets de pouvoir présidentiel renforcé du président et de ses alliés. Et dans ce projet, on enlève tous les obstacles pour créer un président fort, avec un vice-président élu avec lui, ce qui est une nouveauté en Haïti. Il n'y aura plus de Sénat, plus de Premier ministre, plus de ratification du gouvernement par le Parlement et quelques autres renforcements du pouvoir présidentiel. L'armée risque de devenir la base de la société haïtienne avec un service militaire obligatoire. Il y a d'autres changements prévus dans le texte et pour créer un ordre administratif et un ordre judiciaire. Et en fin de compte, on va mettre beaucoup d'administratifs, beaucoup de règles, beaucoup de lois dans un pays où il a toujours été difficile de faire respecter la loi, de faire respecter les règles.
Un projet, Franz, qui a été présenté après 2 jours de grève générale en Haïti lundi et mardi. Quel bilan on peut en faire?
Bon, d'abord, les 2 journées de grève générale pour protester contre la sécurité se sont bien déroulées. Il n'y a pas eu d'incident violent, ni de tentative d'intimidation pour forcer la population à adhérer à la grève. Dans toutes les grandes villes, le transport, le commerce, l'école et les activités courantes régulières se sont arrêtées pendant 2 jours. Il faut dire que quasiment tout le monde a adhéré au mode d'ordre de grève. Tout le monde est contre l'insécurité, tout le monde est contre le kidnapping. Si le transport et le commerce ont repris timidement mercredi, les principaux établissements scolaires ont gardé leurs portes fermées mercredi et il est presque à craindre que l'école pâtisse encore du climat général vu qu'il y a la perspective du 7 février, il y a l'incertitude du 7 février pour savoir si le président s'en va ou si le président reste. Alors la plupart des écoles ont décidé de garder leurs portes fermées, mais la vie reprend timidement à propos.
Oui, Franz, dénoncer l'insécurité était le principal moteur de la grève. Concrètement, qu'est-ce qui a changé depuis mardi?
Bon, qu'est-ce qui a changé depuis mardi? C'est difficile de le dire pour le moment. Tout simplement, on a constaté que l'ancien président Joslem Privert, l'ancien président d'Haïti, a été agressé en public mercredi matin. Mercredi soir, un ancien diplomate a été criblé de balles après une tentative ratée de le kidnapper. Et mardi, 1 heure après la fin de la grève et la reprise des activités, un premier cas de kidnapping a été signalé. Pour le moment, le président Jovenel Moïse et son premier ministre mettent l'insécurité sur des causes politiques. Il n'y a pas encore de mesures annoncées, la police se fait très discrète, rien n'a vraiment changé depuis les deux jours de grève contre l'insécurité.
Franz Duval, le Nouvelliste, merci pour ces précisions et on vous retrouve bien sûr la semaine prochaine.
Le journal d'Haïti et des Amériques.
Deux femmes, deux républicaines, incarnation de deux lignes politiques après les années Trump. Aux États-Unis, les élus de la Chambre des représentants se prononceront tout à l'heure sur l'expulsion de Marjorie Taylor Greene, élue pro-Trump, partisane du mouvement QAnon. Le vote aura lieu en séance plénière, alors qu'hier, déjà, le parti républicain a tranché sur le sort d'une autre élue, Liz Cheney, la numéro 3 du GOP, qui, elle, avait voté pour la mise en accusation de Donald Trump. Éric de Salve, expliquez-nous.
Elle a finalement sauvé son poste, 145 voix pour, 61 contre. Liz Cheney conserve son rang de troisième élue la plus importante de la Chambre des représentants. Ses collègues conservateurs ont voté au secret pour décider s'il fallait ou non la sanctionner en raison de son vote en faveur de l'impeachment de Donald Trump après l'attaque du Capitole. Le simple fait que ce vote ait eu lieu constitue en soi une anomalie aux yeux des démocrates et montre combien Donald Trump reste une force politique. L'opposition demandait plutôt des sanctions contre une autre représentante, Marjorie Taylor Greene, adepte tête du mouvement conspirationniste QAnon et soutenu par l'ancien président. Ces derniers jours, des vidéos postées par Marjorie Taylor Greene avant son élection ont refait surface et choqué. L'élu de Géorgie y tient pêle-mêle des propos violemment islamophobes. Elle soutient des appels au meurtre contre Nancy Pelosi et qualifie la tuerie de l'école de Parkland en Floride de mise en scène destinée à renforcer la législation sur les armes. Or, Marjorie Taylor Greene vient d'être nommée à la commission éducation de la Chambre. Intolérable pour les démocrates qui demandent aux républicains son exclusion, ce que refuse leur chef Kevin McCarthy qui condamne ses propos mais la maintient à la commission. Du coup, les démocrates organisent un vote ce jeudi en plénière pour l'exclure et forcer les républicains à se prononcer en public pour ou contre cet élu qui résume à elle seule la guerre intestine au sein du parti républicain entre partisans et adversaires de Donald Trump. Éric de Salve, San Francisco, RFI.
Preuve seulement que le parti républicain évolue, se transforme avec son temps.
It's just an example. This Republican Party is a very big tent. Everyone's invited in.
Une grande maison dans laquelle chacun est invité, dit Kevin McCarthy. On l'entend et qui promet ce parti, ce GOP, d'être majoritaire dans 2 ans. Bonjour Arim Lipold.
Bonjour Michael, bonjour à tous.
Cette guerre intestine fait aussi bien sûr la une de la presse nord-américaine aujourd'hui.
Oui, le site d'information Politico parle d'une réunion tendue hier des parlementaires conservateurs à la Chambre. Une réunion qui a duré 4 heures et pendant laquelle les élus se sont vivement disputés pour savoir s'il fallait ou non maintenir Liz Cheney, la numéro 3 du parti à la Chambre, à son poste. Le vote était finalement sans appel, on vient l'entendre. Une écrasante majorité d'élus s'était prononcée en faveur de la fille de l'ancien ministre de la Défense, Dick Cheney. Maintenant, poursuit Politico, le chef des conservateurs à la Chambre, Kevin McCarthy, qu'on vient d'entendre aussi, espère clore ce débat interne et se concentrer, d'après Politico, sur le véritable objectif de son parti, à savoir combattre le programme politique du président Joe Biden.
Et on l'entend là, Liz Cheney, nous devons aller de l'avant ensemble, dit-elle, pour être de retour contre les politiques négatives, en effet, dit-elle, du Parti démocrate. Ces tensions et ces incertitudes politiques à Washington, Arim, qui ont des conséquences directes sur le comportement des Américains.
Oui, ils se ruent sur les armes à feu, Michael, c'est-à-dire dans le Washington Post. Rien que depuis le début du mois de janvier, 2 millions d'armes ont été vendues aux États-Unis, c'est une hausse de 80% par rapport à l'année dernière. Selon le Washington Post, l'explosion des ventes est directement liée à l'attaque du Capitole à Washington le 6 janvier dernier. Autre raison, l'incertitude des Américains concernant la politique du contrôle des armes à feu que va suivre la nouvelle administration. Certains craignent que la législation se durcisse et souhaitent compléter leur collection d'armes. Cette demande accrue aboutit à une situation inédite, écrit le Washington Post. Certains armureries n'ont plus de balles en stock. Autre motivation avancée par les first buyers, comme on les appelle aux États-Unis, c'est-à-dire ceux qui se procurent une arme pour la première fois, le manque de confiance dans la capacité de la police à les protéger. D'après le Washington Post, le phénomène, en somme, n'est pas vraiment nouveau. À chaque fois, en fait, qu'un président démocrate prend les rênes de la Maison Blanche, la vente des armes à feu augmente drastiquement. C'était aussi le cas lorsque Barack Obama est devenu président en 2008.
Arim, on va poursuivre ensemble dans quelques minutes. Mais d'abord, notre dossier du jour, on est toujours aux États-Unis avec un pied aussi au Mexique. La coopération entre les deux pays pour lutter contre le trafic de drogue, c'est un sujet majeur, sauf qu'on ne peut plus vraiment parler de coopération. Mexico a voté une loi qui limite l'action de la DEA, l'agence antidrogue américaine, sur son territoire, Alix Hardy.
Depuis des décennies, les agents de la DEA, l'agence antidrogue américaine, opèrent au Mexique. Certains les voient comme des super flics, d'autres comme des cow-boys. Carlos Pérez-Ricarte est historien et spécialiste du sujet.
La DEA a toujours travaillé au Mexique. Il y a une vraie relation d'interdépendance, mais elle est asymétrique. La DEA préfère travailler avec l'aval du gouvernement mexicain, mais elle agira quand même sans lui. Quand El Chapo est capturé en 2014, c'est par un agent de la DEA qui porte un uniforme de la marine mexicaine et une arme à usage exclusif des forces de l'ordre mexicaines. On n'a jamais su d'où venait l'ordre.
Mike Vigil est un ancien de la DEA. Il a passé 12 ans au Mexique. Il est parfois nécessaire que les agents fassent cavalier seul dans un pays qui n'est pas le leur, dit-il.
La DEA a toujours partagé beaucoup d'informations avec le Mexique, mais certains renseignements sont trop sensibles. Leur diffusion peut compromettre des sources, des opérations. Il y a beaucoup d'éléments bons et très sains dans les forces de l'ordre mexicaines, mais il y a aussi beaucoup de corruption. On a divulgué des informations dans le passé qui ont été filtrées vers les cartels.
L'arrestation de l'ancien ministre de la Défense Salvador Cienfuegos aux États-Unis en octobre pour trafic de drogue, après une enquête menée durant plusieurs années par la DEA à l'insu du Mexique, a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour le président mexicain, qui a illico pris la défense du général.
Todos los casos tienen que ver elementos.
Ce dossier ne repose sur rien et il faut des preuves pour accuser les gens. Ceux qui soutiennent cette accusation sont contre la souveraineté du Mexique. Nous pouvons dire que nous sommes très déçus du travail de la DEA.
Après avoir obtenu le retour au Mexique du général qui ne sera pas poursuivi par la justice mexicaine, Mexico a adopté à toute vitesse une nouvelle loi qui réduit drastiquement la marge de manœuvre de la DEA au Mexique. Désormais, les agents perdent leur immunité diplomatique et ils sont sommés de communiquer tous leurs renseignements à un panel d'autorités mexicaines.
Cette loi est inapplicable. Elle a été pensée dans des bureaux sans lien avec le terrain. Alors non, les contacts entre agents de la DEA et sources policières ne vont pas cesser du jour au lendemain. Cela va multiplier les obstacles. Tout va se faire avec davantage d'opacité.
Mike Vigil, ancien de la DEA.
La DEA va continuer à faire son travail comme elle peut, mais ceux qui sortiront gagnants de cette réforme, ce sont les narcotrafiquants.
Un gel historique des relations entre les deux pays, souligne l'experte en sécurité Wanda Feldbaum-Brown.
C'est un recul sur la sécurité comme on n'en avait pas vu depuis les années 90, à la suite de l'assassinat de l'agent de la DEA, Enrique Camarena, au Mexique. Le président López Obrador essaie de se créer un moyen de pression pour négocier avec l'administration de Biden. Sous Trump, les États-Unis ont choisi d'ignorer tout un ensemble de sujets mexicains.
En faisant de ce dossier un levier purement politique, le Mexique perd une occasion de réellement donner un cadre intelligent à l'activité nébuleuse de la DEA au Mexique, déplore l'historien Pérez Ricard.
C'est une réponse mexicaine malheureuse et mal conçue, mais comme toute crise, elle crée une opportunité. Le cadre légal de la collaboration est obsolète, il faut le repenser. D'autre part, le gouvernement mexicain actuel est très critique de la stratégie de guerre frontale contre le narcotrafic qui guide la DEA, ce qui n'était pas le cas des précédents gouvernements. AMLO doute fortement que cela contribue à la pacification du Mexique.
Deux ans et demi après son arrivée au pouvoir, López Obrador n'a cependant pas réussi à proposer d'alternatives convaincantes à la stratégie de guerre contre la drogue. Il s'appuie même plus que jamais sur l'armée, dont il vante l'intégrité, une raison supplémentaire de voler si promptement à la rescousse de l'ancien ministre de la Défense. Alex Hardy, Mexico, RFI.
Et du Mexique, cap au sud, on vous retrouve à Rimlipolde, direction l'Équateur, où se termine la campagne avant la présidentielle de dimanche.
Oui, les 16 candidats profitent de cette dernière journée aujourd'hui pour organiser des rassemblements, surtout en province, écrit El Comercio. Pandémie oblige, eh bien, le nombre de personnes pouvant assister au meeting est limité, pas plus de 200 personnes et 50 voitures par réunion électorale. Le vote étant obligatoire en Équateur, tout électeur qui ne se rend pas aux urnes dimanche doit payer une amende à hauteur de 10% du salaire minimum. C'est beaucoup, selon El Universo, qui appelle dans son édito les Équatoriens à aller voter.
Et on ne peut pas dire hein, donc qu'ils manquent de choix, les Équatoriens.
Exactement, et effectivement, il y a 16 candidats. On se dirige donc forcément vers un second tour, estime le journal La Hora. Aucune enquête d'opinion ne prévoit d'ailleurs la victoire d'un candidat dès le premier tour. Le favori des sondages s'appelle Andrés Arauz, dauphin de l'ancien président socialiste Rafael Correa. À 35 ans, il pourrait, en cas de victoire, devenir le plus jeune président équatorien, à condition de battre celui qui arrive en deuxième place dans les sondages, l'ancien banquier de droite, Guillermo Lasso.
Et évidemment, on suivra cela dans le journal d'Haïti et des Amériques. On termine par le Brésil, Harry, mais le Covid, le Brésil, se tourne vers la Russie pour acheter le vaccin Sputnik V.
Eh bien, cette décision a été rendue possible grâce à une simplification de la procédure des autorités sanitaires pour étudier, vous savez, les demandes d'urgence. Selon Carta Capital, l'agence Anvisa n'exige donc plus que les essais de phase 3, ce sont les tests d'efficacité et de sécurité du vaccin, soient réalisés au Brésil. Ce sera le cas pour le vaccin Sputnik, dont l'achat sera ainsi facilité, écrit le site d'information G1. Le gouvernement brésilien compte boucler l'achat de 30 millions de doses de ce vaccin demain vendredi, Michael.
À la vaccination, merci beaucoup Harim, cette vaccination qui a débuté hier au Chili sur les chapeaux de roue. 140 000 personnes ont déjà reçu en une seule journée une première dose de vaccin. Le pays compte vacciner ainsi 70% de sa population avant le mois de juillet. Pour cela, eh bien, plusieurs accords ont été passés avec différents laboratoires, comme nous l'explique Iskia Sitchez, présidente du Collège des médecins du Chili.
Nous avons passé des accords avec Pfizer, AstraZeneca, Sinovac et Johnson & Johnson et nous espérons d'autres contrats avec Moderna et Sputnik V. Nous avons observé une augmentation importante de décès. On a dépassé les 44 000 morts du Covid dans le pays. 85% d'entre eux étaient des personnes âgées, la plupart de plus de 60 ans. Donc nous sommes très inquiets alors que nous sommes en pleine saison estivale. Le système de santé régional a été débordé. Je rappelle que le Chili est un pays tout en longueur. Cette épidémie a eu un impact très fort sur les régions les plus éloignées. Nous sommes aussi inquiets du retour de vacances en mars, car nous aurons trois facteurs aggravants. Davantage de mouvements de population, le retour des gens dans les grandes zones urbaines et le changement de saison. Donc, on prévoit une augmentation des cas. On espère que d'ici là, grâce à la campagne de vaccination, on aura des résultats prometteurs de ce processus d'immunisation avec moins de décès chez les plus âgés.
La présidente du Collège des médecins du Chili avec Aïda Palao. Il est 9h26 à Pointe-à-Pitre.
Le journal de l'Outre-mer.
Bonjour à vous, Benoît Ferrand.
Bonjour Mickaël.
On commence par la Guadeloupe. Le rapport d'observation de la Chambre régionale des comptes sur la gestion de l'octroi de mer par le Conseil régional n'en finit plus de faire couler de l'encre.
De l'encre et de la salive, des voix de plus en plus véhémentes s'élevant contre ce qu'elle qualifie de tentative de l'État d'en finir, entre guillemets, avec cette taxe spécifique au département d'outre-mer. Écoutez par exemple le premier vice-président de l'Association des moyennes et petites industries de la Guadeloupe, Didier Payen.
Nous considérons un rapport totalement à charge, qui vise en fait à discréditer d'une part le différentiel d'octroi de mer dont bénéficient les entreprises de production locale, et également de discréditer la gestion qui en est faite par la région, avec un objectif qui n'est même plus voilé, c'est-à-dire de remplacer l'octroi de mer qui recède des collectivités locales par une TVA nationale. Et de ce fait, on aura centralisé toutes les recettes après avoir fait la décentralisation des charges en 2003. Donc nous serons obligés, pour le fonctionnement de nos collectivités territoriales, de quémander chaque année des budgets à l'État central, plutôt que de disposer, comme on le fait actuellement, de recettes locales gérées localement.
Direction la Martinique, un peu plus de 8 mois après les actes de vandalisme commis sur 2 statues de Victor Schœlcher dans la commune qui porte son nom et à Fort-de-France, la commission mémorielle mise en place par la municipalité de Schœlcher a remis hier ses premières propositions et préconisations. L'occasion pour le maire, Luc Louison Clémenté, d'affirmer qu'il n'était en tout cas pas question, tant que lui serait là, que la commune change de nom.
Je serai très clair sur le sujet. En 1888, lors de la réunion d'un conseil municipal de la ville de Schœlcher, tous les conseillers municipaux de cette période, à l'unanimité, ont décidé de faire évoluer le nom Casanière vers le nom Schœlcher. Pensez-vous que moi, élu de la République, avec les responsabilités qui sont les miennes, avec les devoirs qui sont les miens, avec celui qui, parmi les plus essentiels, se doit de faire vivre la mémoire, pensez-vous que j'aurai ce caprice de vouloir demain changer le nom de ma commune? Je veux dire très fortement que la jeunesse, contrairement à ce qu'on pense, elle est là pour se révolter. C'est un âge auquel, si nous ne passons pas par cette période, on pourra dire qu'on a raté une partie de sa vie. Donc ça ne me choque pas qu'elle nous interpelle, ça ne choque pas qu'elle nous bouscule, mais c'est à nous, de manière intelligente, en liaison avec elle, de construire les solutions les plus adaptées aux situations.
Rappelons que Victor Schœlcher, sous-secrétaire d'État à la marine et aux colonies après la révolution de 1848, a été l'initiateur du décret d'abolition de l'esclavage. Bon après-midi, Michael. À demain.
Merci beaucoup, Benoît Ferrand, et aux équipes de La Première pour ce journal de l'Outre-mer que l'on retrouve chaque jour dans le rendez-vous d'Haïti et des Amériques réalisé aujourd'hui par Claude Battista. Très bonne journée à tous à l'écoute de nos programmes et on se dit à demain.